Ce matin, Alain Corbellari, par ma bouche, a parlé de la question de la langue. Cédric, tu n'étais pas arrivé, je crois, encore, toi non plus. On a parlé ce matin de la question de la langue en résumant. Alors, si je devais résumer la communication de ce matin, il y a trois types d'approches. Soit on fait de la BD quasi-médiévale, enfin, avec une langue, là je parle de la langue hein, uniquement, avec une langue quasi-médiévale, c'est-à-dire illisible à part par une vingtaine de personnes en France. Soit on fait de la bande dessinée avec une langue qui est la langue du 21e siècle, pour justement. Alors, Olivier Jouret, qui était là ce matin, est en train de faire un projet. Et il voudrait, avec une langue, qui serait celle uniquement, qui serait la nôtre, sans fioriture. Et la plupart des auteurs font un entre-deux, alors tout est question de dosage, avec soit de la syntaxe, soit du vocabulaire, soit des calligraphies, etc., qui font médiéval, soit qui sont médiéval. Ce qui n'est pas la même chose, mais bon, en tout cas, il y a une volonté d'avoir une langue un peu différente. Comment... Dans votre projet, pour l'Antiquité c'est différent, parce que pour l'Antiquité, justement, Corbellari disait ce matin, on n'a pas idée de comment. Déjà, le gaulois, on ne le connaît pas. Et puis, parler latin, ça ne sonnerait pas à grand-chose. Enfin, il y a eu des astérix en latin, mais ça, c'est pour un public d'averti. La langue du 19e et du 20e, ça ne pose pas de problème. Mais pour la période qui va en gros du 12-13e au 18e, pour ces 4 siècles ou 5 siècles d'histoire, est-ce que l'éditeur a donné donné le tempo, a dit il faut que ce soit comme ça. Est-ce que le scénariste fait son dialogue tout seul? Est-ce que l'historien revient là-dessus? Et quels sont... on sait qu'il est impossible de rendre... Alors pour Charlemagne, en fait, la question ne va pas vraiment se poser. Charlemagne parlait un mélange de dialectes germaniques de la Moselle, centre de l'Europe à ce moment-là, et de latin, langue de communication officielle. Du coup, on ne va pas faire l'album en latin. En revanche, pour Philippe le Bel, ou pour le 14e, 15e, c'est même pour Catherine de Médicis, quelle a été la politique éditoriale de la maison et comment s'est fait le travail? Et ça, je pense que les trois peuvent y répondre.
Je vais juste resituer, c'est que la collection ne s'intéresse pas uniquement à l'histoire de France. Il y a un Soliman et Gengis Khan qui sont prévus cette année. Gengis Khan, on est dans le médiéval, mais la langue mongole médiévale, j'avoue qu'on n'a pas de traces.
Ce serait intéressant.
Non, la volonté, elle est quand même d'être accessible le plus facilement possible. Donc c'est plutôt un langage d'aujourd'hui. Après, il y a juste une donnée qui peut être importante, c'est que sur un certain nombre de sujets, on a des traces écrites, on a des textes que l'on peut utiliser. Lorsqu'on dans les dialogues ou je vais lire un discours, ce discours-là, on a une trace. Donc on utilise le langage qui est dans ce discours. Voilà, parce qu'il y a une vraie trace historique. Pour le reste, il peut y avoir éventuellement, de la part de scénaristes, une volonté de faire un petit peu genre, mais pas vraiment.
Bah, disons que sans tomber dans la tentative de restituer la langue de l'époque, ce qui est complètement impossible, moi je me suis battue pour que il n'y ait pas dans le dialogue de Charlemagne, du volume de Charlemagne, des formes qui s'apparentent à celles de la fin du Moyen-Âge ou de l'époque moderne. Le meilleur exemple, c'est la première case. La première case où les scénaristes, la première réplique, donc c'est la première planche, mais c'est pas la première case, où Charles et son frère sont à la chasse le sanglier. Philippe le Bel aussi, ça commence avec la chasse. Non, on chasse beaucoup le sanglier au Moyen-Âge. Et un serviteur arrive pour leur annoncer que leur père vient de mourir. Pépin le Bref, donc le roi des Francs. Et donc les scénaristes avaient conçu cette réplique avec le serviteur arrivant à bride abattue et en appelant Majesté, Majesté. Or, on n'appelle pas le roi Majesté à l'époque carolingienne, ni même d'ailleurs à la fin du Moyen-Âge. Je crois que c'est un usage plutôt de l'époque moderne en réalité. Donc j'ai traqué, et il y en avait en fait dans le scénario, il y avait plein d'endroits. Donc j'ai dit non, Majesté, c'est pas possible, il faut mettre Seigneur, parce que c'est la seule chose qu'on dit. Dominus, Seigneur, il n'y a pas autre chose. Et alors après, ils m'ont posé la question, quand il a été question du chef, du grand chef de la rébellion saxonne, Widukind, Mais alors, si quelqu'un vient lui raconter ce qui se passe, etc., comment va-t-il l'appeler ? Pareil, Seigneur, il n'y a pas tellement d'autres possibilités, en réalité, que celle-là. Donc voilà, ça, c'est une forme. Et après, j'ai quand même fait la chasse à toutes les formes d'expression trop modernes, comme celles qu'on voyait tout à l'heure avec « prépare-moi un rapport, tu as un mois ». Non, ça, c'est pas non plus possible de s'exprimer comme ça. Donc, sans tomber dans la reconstitution de la langue, je pense qu'il faut quand même faire attention à ce que la manière de parler ne soit pas anachronique, simplement.
Est-ce que tu as eu ton regard aussi sur le dialogue ou pas ?
Pas beaucoup, parce que bon, moi, je fais juste écrire les textes qu'on me donne, donc du coup, après, mon avis en tant que lecteur, à la limite, peut être intéressant, c'est que c'est toujours une question d'immersion, et les quelques BD que j'ai pu lire de historique où il y avait justement un intérêt à essayer de mettre le plus de mots, de vocabulaire, de grammaire, de syntaxe de l'époque, c'est quand même un peu pas difficile d'accès, mais il y a quand même un peu des fois où on sort de la case, où on sort de l'histoire pour essayer de comprendre ce qui se dit. Et en termes d'immersion, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi, généralement, j'ai plutôt tendance à vouloir faire les choses les plus simples et puis à garder le vocabulaire qu'on a aujourd'hui, ou en tout cas sans parler comme des chartiers, bien sûr, mais en ayant un minimum de clarté. Donc c'est ça qui rentre en compte pour moi dans la lecture.
Dans le making-of de Philippe Lebel, Valérie Tesse dit qu'elle a voulu rendre une langue contemporaine, matinée de concepts ou de formules médiévales traduites. Néanmoins, on a, et elle dit qu'il est important de distinguer les différents registres de langue en fonction des classes sociales. Soit. Là, c'est le roi qui parle et il dit... Moi, j'ai appris le métier en posant mon cul sur le trône. Voilà. Alors, ça rend le roi vivant. Ça différencie pas beaucoup les niveaux de langage.
Non.
Alors,
moi qui paraît de paracaler comme un chartier,
voilà.
bien reçu mon coup. Bah, là, j'avoue que ça serait plutôt à Mathieu Gabela de répondre. Mais on va dire que je pense que c'est aussi une volonté de... C'est sur le moment, en fait, c'est-à-dire que dans la narration...
Si je peux, sur cette séquence-là, donc là, c'est pas Philippe Lebel qui parle, mais c'est son père, Philippe III, et dans la description, l'idée était quand même de situer le personnage de Philippe III comme un roi un peu soudard, guerrier, amateur de chasse, et pas du tout un roi, justement, instruit, etc. Et ce texte-là va dans ce sens-là.
C'est comme un raccourci. De toute façon, c'est un raccourci qu'on est obligé de prendre.
En tant que lecteur, moi, j'ai vraiment ressenti ça, de me dire que Philippe III, c'était quelqu'un qui n'avait pas la majesté royale, plus que Philippe, en contraste avec son fils, qui justement va...
Dans l'histoire, Philippe III, c'est un roi qui ne sert à rien entre Saint-Louis, qui est son père, et Philippe IV, Philippe le Bel, qui est son fils.
Il n'a pas eu trop de temps, il faut dire aussi.
Dans quelle mesure le cognomen de Philippe III a joué justement par rapport à ça ?
Pardon ?
Comment le surnom de Philippe III a joué dans cette perception ? C'était quelque chose qui...
Je pense que là, le Philippe III apparaît très très peu. Hein. On sait juste que c'est le père de Philippe le Bel. L'idée était vraiment de résumer le personnage par opposition à Philippe le Bel. Plus exactement, Philippe le Bel se pose aussi en opposition à son père en tant que roi. Donc voilà, c'est par ce genre de petits détails dans les dialogues, dans la posture que ça transparaît.
Alors, maintenant qu'on a parlé des dialogues, on peut parler du dessin. Proprement dit, on n'a absolument aucun portrait de Charlemagne. La statuette que vous avez à l'écran est très connue, tout le monde dit c'est Charlemagne. Ah bon, alors d'une part, c'est plus probablement son petit-fils que lui.
En fait, oui,
les monnaies impériales, là vous l'avez à droite, c'est extrêmement codifié. Alors, une monnaie impériale ne dit strictement. Enfin, dit beaucoup d'un programme politique, c'est vraiment intéressant. Mais pour nous, historiens, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue pragmatique, pour en faire le portrait, ça sert à peu près à rien. Comment dessiner Charlemagne ? Et bon, déjà il n'a pas de barbe, ça on l'a dit, mais au-delà de ça, comment le dessiner ? Et quelles indications est-ce que vous avez donné vous au dessinateur ? Et alors je finis avec Philippe Lebel. Donc là on a Philippe Lebel. C'est pas non plus un, c'est pas un Polaroid extrêmement clair. Et voilà un crayonné de Philippe Lebel. Là encore, comment le représenter à partir d'une imagination pure, à partir d'une imagination d'époque moderne ou contemporaine, moderne ou contemporaine, à partir de quoi dessiner, parce que c'est quand même important de savoir comment dessiner Charlemagne ou Philippe Lebel, à partir de quoi.
Et je rajouterais juste, est-ce que le Lebel influence nécessairement le...
Oui, oui, un petit peu quand même. Alors après, j'ai dû moi sur Philippe Lebel, quand j'ai pris le personnage au départ, j'ai potassé un petit peu, et j'ai, au niveau documentation visuelle, effectivement, on n'a rien du tout. Et vous montriez tout à l'heure l'autre dessin juste avant. Bon. C'est pas pratique parce que effectivement on n'avait pas du tout on a aucun trait, c'est très difficile, ils ont tous le même trait, c'est à dire qu'il y a
c'est stylisé.
Et à moi de faire avec pour pouvoir créer un personnage qui puisse vivre dans la BD pendant 45 pages. Là, je vais travailler de la même manière qu'un réalisateur, c'est à dire que je vais faire un casting de personnages potentiellement intéressants et en lien avec ce que je vais raconter. Donc pour Philippe Lebel, à mon avis, je pense qu'il devait sûrement pas être beau comme nous on le considère, les gens beaux aujourd'hui. Il devait sûrement être peut-être laid, on n'en sait rien. Apparemment, il était censé avoir un nez plutôt long, d'après ce que j'ai pu lire sur certains trucs dans mes recherches. Et après, j'allais pas non plus dessiner un personnage avec un nez énorme pour dire qu'il était beau, parce que je l'aurais peut-être un peu caricaturé. Ça, c'est aussi les problèmes de la stylisation du dessin. Donc du coup, j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, bon, on va pas essayer de le rendre efféminé, mais en tout cas un peu androgyne, un petit peu fin, des traits qui soient fins pour le rendre un peu beau comme nous on peut entendre quelqu'un de beau aujourd'hui. On regarde les acteurs d'aujourd'hui, quelqu'un de voilà, avec des traits fins, ça peut avoir un intérêt. Donc du coup, je suis juste parti sur l'idée de dire, ok, il va avoir des traits fins, pas me prendre la tête là-dessus. On va essayer d'en faire un personnage charismatique avec le minimum. Pour Charlemagne, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais du coup, c'est vrai que c'est...
Pour Charlemagne, on n'a vraiment absolument aucune idée des traits de son visage. En revanche, pour ce qui est de sa stature, etc., bon, il y a le fameux portrait d'Enginard, c'est-à-dire un auteur qui a connu lui-même Charlemagne et qui raconte, qui a écrit la biographie de Charlemagne et qui raconte qu'il était grand. Alors après, on peut toujours dire... Oui, mais ça, c'est le portrait d'Auguste qu'il a bricolé, donc bon, c'est difficile. Mais il y a quelques indications comme ça. Après, sur le visage, bon, je pense que le dessinateur, il faudrait que Gwendal oui. Réponde. Je ne sais pas de quoi il s'est inspiré. J'ai juste dit pas de barbe, la moustache, pas blond, plutôt brun, etc. Enfin, brun, pas.
Avec le bandana. Très brun.
Le bandana.
C'est Rambo. Hein.
Ouais, moi, ça ne me choque pas. J'aime plutôt bien. L'idée, c'était. Qui porte pas la couronne tout le temps, quoi. Il Bien. Porte même la couronne de manière très exceptionnelle, les Carolingiens. Ils se promènent pas avec leur couronne, quoi.
Mais ça, c'est une des... Alors, bon, puisqu'on aborde la question de la couronne, dans le Charlemagne, il la porte quasi jamais. Oui. Dans le Philippe le Bel, il petit déjeune avec sa couronne, il se baigne avec Alors, sa couronne, il dort avec sa couronne.
On a eu cette discussion là après. Ça fait partie des éléments qui ont été on ne va pas dire oublié, mais qui ont été difficiles à prendre en compte au moment de la réalisation de tout l'album. C'est qu'il y a des fois où certaines scènes où moi j'ai mis la couronne et je n'étais pas censé savoir qu'il ne fallait pas la mettre. Parce que c'est difficile de tout faire à chaque fois au moment T, de dire ok, ah non, on met en compte qu'il ne faut pas mettre la couronne. Une fois que j'avais fait certaines planches, les historiens m'ont dit oulala, en fait, il aurait fallu ne pas la mettre. Mais on peut laisser quand même. On peut laisser de côté le fait qu'il laisse au moment où, à un moment donné, il est en train de passer en Flandre et qu'il salue le peuple, etc. A priori, il n'avait pas sa couronne. Mais c'est des petits éléments, des petits soucis de justesse qui sont difficilement prenables en compte sur le moment. Donc après, je ne l'ai pas fait avec la couronne tout le temps.
Après, il y a la question aussi, pas perdre de vue que ça reste une bande dessinée avec l'objectif que le lecteur ne soit pas perdu dans la narration. C'est un élément de reconnaissance du personnage qui est tellement simple que voilà, ça fait partie des codes.
Le lecteur, il va lire directement l'essentiel quand il va voir des personnages. Il va voir un personnage avec une couronne, même si ça sera pas, il sera de dos, il saura que c'est le roi. Et après, bien sûr, il y a des codes qui font qu'on n'a pas besoin que d'une couronne pour que le personnage ressemble à chaque fois sur chaque case, mais c'est important quand même qu'il puisse directement aller à l'essentiel. La lecture, c'est vraiment rapide.
Après le scénario, après le dessin, il y a une étape qu'on n'a pas évoquée jusqu'à maintenant, c'est la couleur, qui pour la période médiévale est quelque chose d'important. Michel Pastoureau, qui a failli être là ce matin, qui aurait pu être là, a travaillé justement sur la question des couleurs, et Valérie Tess le cite dans le making-of à la fin de l'album. Le bleu est une couleur peu présente au Moyen-Âge, si ce n'est justement pour la royauté. On parle du bleu roi, d'où l'importance de cette couleur dans ta BD. Alors là, pour le coup, cette BD est bleue, la couverture est bleue, tout est bleu. Et là, pour le coup,
la roi, hein.
Oui, non, mais justement, là, c'est logique. Et là, du coup, j'ai vraiment repris les couleurs dans le Charlemagne et dans le Philippe le Bel. Et pour le coup, le traitement est différent. Dans ton album, Valérie Tess met bien à la fin que les couleurs sont peu vives et que, 99% des gens ont des couleurs délavées et qu'on a vraiment des couleurs qui sont ternes et il est difficile de différencier deux individus à la couleur de leurs vêtements. Et ça, c'est le cas, on voit bien, là, ils sont tous grisâtres, verdâtres, etc. On a vraiment ça avec, donc là pour le coup, le rouge, le bleu pour les personnages importants qui se distinguent réellement du peuple. Alors que si on prend le Charlemagne, là pour le coup c'est moins clair. Si on prend, donc là j'ai mis deux images mais j'aurais pu en mettre d'autres, là on a vraiment soit des quidam, soit un missus dominici, mais c'est pas le roi, et leurs habits on dirait qu'ils sont d'or. Bon, j'exagère un peu, mais en tout cas, les couleurs sont bien plus chatoyantes, bien plus éclatantes que dans le Philippe le Bel. C'est quoi ? C'est une volonté ?
Alors, il y a deux raisons. C'est que la première, c'est que dans le Charlemagne, on voit essentiellement des personnages
de
l'aristocratie et des nobles. C'est des militaires quasiment tout le temps. Alors que dans le Philippe le Bel, il y a vraiment une opposition avec beaucoup de pages où on voit le peuple, par opposition à des pages où on voit l'aristocratie. C'est beaucoup moins tranché dans cette vision-là, dans le Charlemagne.
D'accord. Donc c'était vraiment... Alors, les couleurs, c'est toi qui les as faites ou pas ?
Oui. En gros, je sais pas trop quoi répondre, parce que ça, oui, t'as tout répondu. C'est le moment où moi j'ai traité les couleurs, j'ai suivi les conseils les directives de Valérie et Étienne sur effectivement les choix de teintes, le bleu pour le roi, etc. Après, on a fait aussi un travail avec l'éditeur justement de reprendre certaines choses pour clarifier la lisibilité, parce que c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un c'est très complexe la couleur. Le travail de la couleur sur une bande dessinée, c'est très complexe parce que ça peut vite être compliqué la lecture, en fait. On peut vite se perdre l'œil et le lecteur peut vite sortir de l'histoire, et c'est pour ça que c'est pas facile. Donc quand on m'a demandé de faire des personnages avec des couleurs vives et en contraste avec d'autres qui ont des couleurs moins vives, il restait quand même qu'il fallait prendre en compte l'importance dans une case d'un des personnages. Même s'il a des couleurs pas vives, il faut lui donner de l'importance. Et du coup, c'est une espèce d'équilibre, de nuances, pour toujours être dans la lisibilité. Moi, c'est... Enfin,
donc c'est... c'était. Alors une autre question, c'est celle du réalisme. Là, sur l'image qu'on a, on a un ensemble une vue cavalière de l'ensemble de l'île de la Cité. Donc là, on n'a pas un personnage, on a un ensemble de bâtiments. Ce qui a dû poser problème, d'autant plus qu'on est dans une période où les bâtiments sont en travaux, ce que d'ailleurs tu as voulu représenter dans l'image d'en bas, puisque vous voyez l'escalier est en travaux. Donc ça montre bien ça. Idem avec la cathédrale de Reims, qui est montrée là aussi en travaux, là encore avec une toiture non achevée. Jusqu'où tous ces détails graphiques sont importants et jusqu'où est-ce que il fallait absolument représenter ces bâtiments en travaux, parce que là on est vraiment dans du détail.
Alors on est dans le détail et jusqu'où on y va, on y va jusqu'à reprendre le dessin, tout simplement, puisque c'est justement ces exemples-là que j'aurais bien dû mettre. Celui d'avant justement avec l'île de la Cité, là les historiens m'ont guidé sur des plans qui ont été faits par archéologie, etc., par des archéologues, pour m'indiquer que non, j'avais fait une aile en trop, par exemple, sur l'île de la Cité, j'avais fait une aile en trop, parce que je m'étais servi des plans un peu plus tard, qui dataient du 15e ou 16e siècle, sur l'île de la Cité. Et donc, du coup, ils m'ont tout de suite dit non, retire ça, ou en tout cas, essaye. Sauf que le dessin était déjà fait, donc du coup, bah, je l'ai refait. Ça, pas le choix. Et, l'escalier, c'était plus simple parce que j'avais juste à rajouter les échafaudages. Et les échafaudages, bon, je me suis inspiré des échafaudages modernes, mais c'est toujours compliqué. Ça, je n'allais pas faire des bétonnières et tout ça. Donc, j'ai essayé de mettre ça en scène la manière la plus réaliste possible, quoi.
Et qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement ? Est-ce que c'est représenter Notre-Dame de Paris, l'île de la Cité en perspective ? Est-ce que c'est représenter des personnages, des détails techniques ? Ou est-ce que c'est représenter, par exemple, là, tu es à l'intérieur de ce que tu appelles une bibliothèque, avec un système de classement ? Alors là, pour le coup, je serais curieux. Enfin, les systèmes de classement des archives médiévales, c'est quand même quelque chose qui vraiment, même qui pour nous, est vraiment compliqué. On n'en a pas beaucoup d'idées. Ce système de petits trucs là, c'est assez rigolo, je connaissais pas.
Alors en fait, c'est un tourniquet. Alors je connaissais pas du tout jusqu'à ce que Étienne et Valérie me donnent c'était un petit pictogramme justement où on voyait une espèce de cabinet de livres, de bibliothèque avec un tourniquet. Et ce tourniquet, on s'est dit mais en fait, ça se trouve ils mettaient ça là-dessus. Donc moi, j'ai pas cherché trop à comprendre, ils m'ont donné ça, ils m'ont dit essaie de faire ça. J'ai dessiné du mieux que je pouvais, ils m'ont dit ça marche, c'est très bien, a priori c'est devait être comme ça. Donc si les historiens ont validé, je me suis dit ok, j'ai fait bien mon boulot, j'ai eu la bonne imagination.
J'ai aucune idée, là c'est trop tard pour moi, là je connais pas.
C'est très compliqué parce que c'est pareil, moi j'en ai jamais vu, j'ai juste fait à partir d'un pictogramme quoi, c'était pas non plus très bien défini, donc faut prendre en compte, on va dire que c'est 70% vrai et puis 30% d'imagination sur l'image que j'en avais au moment donné quoi. Parce que c'est plus dur que non, c'est toujours plus dur de dessiner des grands décors que des petits éléments où on a juste une chose à regarder plutôt que des grands décors où là effectivement il y a une perspective à allonger sur plein de trucs, donc c'est très compliqué.
Ça c'est une image tirée de l'article de Beate que j'ai lu qui est vraiment intéressant pour justement la question de l'esthétique du parchemin dans les BD sur le Moyen-Âge, l'esthétique l'insertion de simili manuscrits médiévaux dans de la BD sur le Moyen-Âge. On a souvent des phylactères, soit en tout début de BD, soit en toute fin de BD, comme pour rentrer dans la BD ou pour en sortir, et, ou alors des cartons en forme de parchemin et d'enluminure. Et ça, bah, c'est exactement le cas de l'ouverture du Philippe le Bel. Et je trouve que d'ailleurs, c'est très joli et ça marche très bien. D'où vient l'idée ? C'est de toi, là, encore
Ouais, c'était moi, à la base. J'avais eu envie de faire rentrer le lecteur, en fait, dans un univers médiéval. Alors, la justesse de l'enluminure est un peu à redire. Je sais, les historiens m'ont dit, bon, c'était pas super comme ça, ou en tout cas, tu t'es inspiré de quoi ? J'ai remontré la documentation que j'avais sortie, et j'en ai fait un espèce de mélange. Donc, du coup, mais surtout de l'époque 14e siècle. Et du coup, c'était vraiment mon idée de pouvoir permettre au lecteur de s'insérer dans un cadre, dans un univers, et quoi de mieux qu'une enluminure pour montrer qu'on est dans un truc un peu le médiéval, le 14e siècle, justement. Quoi.
Alors, maintenant, on peut aborder un nouveau thème qui est celui du didactisme et de la vulgarisation à la fois. La Sophie de Closet, PDG de Fayard, souligne que le marché du livre d'histoire s'effrite. En tout cas, les best-sellers sont de moins en moins nombreux et on attend un dubi pour. Enfin bon, on peut attendre longtemps. Hein, mais...
Les temps sont autres, c'est pas dubi qui manque, c'est la structure du lectorat est complètement différente. Et la structure de la production aussi. Donc,
Les vrais succès de librairie sont des ouvrages de vulgarisation. Alors, Aymeric, on a fait ça ensemble, à rajouter de mauvaises vulgarisations.
Parce qu'il y a de la bonne vulgarisation.
On en vend aussi.
On pense à la polémique sur Métronome, parce que là, j'ai vu, il est ressorti à Paris dans le métro, là, ils ont remis les affiches sur Laurent Deutsch. Donc on est vraiment dans ce qui marche en ce moment, c'est la vulgarisation. Bonne ou mauvaise, ça c'est un autre débat. Est-ce que vraiment ces bandes dessinées sont conçues comme des œuvres de vulgarisation ou pas ? Est-ce que le mot est assumé ? Est-ce que c'est l'objectif ?
Totalement.
Oui, totalement. Je dirais oui aussi, bien sûr.
Et du coup, est-ce que
Alors, je ferai juste puisque pour pas être associé au métronome de Laurent Deutsch. qui a lui-même scénarisé une bande dessinée chez Casterman. Sur les rois de France.
Non, sur le connétable.
Alors c'est sur le, en fait, c'est sur le connétable de Bourbon et François Ier.
Mais si, enfin bon.
Et qui est autant sur le plan scénaristique que sur le plan historique et discutable.
Financé par l'Action française.
Voilà, la volonté, justement, en allant chercher des historiens universitaires, c'est qu'on. De toute façon, un historien universitaire travaille sur une science qui est dite humaine, qui va être remise en question dans quelques années pour dire que finalement Charlemagne en a fait d'autres découvertes et c'est pas exactement comme ça que ça se passait sur Philippe le Bel et ainsi de suite. La volonté de s'attacher à avoir les sources historiques les plus fiables aujourd'hui. C'est pour ça que Geneviève a travaillé sur le Charlemagne. C'est pour ça que Vincent Duclerc, qui est un des grands spécialistes de Jaurès aujourd'hui, a travaillé sur le Jaurès. Valérie Tess, Étienne Anaïm, voilà. Ce sont tous des historiens universitaires reconnus comme tels. Donc, on peut faire de la vulgarisation aussi en étant le plus pédagogique et le plus fiable possible.
Mais c'est aussi le travail des historiens universitaires que de faire de la vulgarisation, que ce soit par le biais de la bande dessinée ou par le biais de tout ouvrage destiné à un grand public.
Est-ce que certaines voix chagrines, vous pourriez critiquer le fait de descendre dans l'arène et d'amener le...
Enfin, ceux qui sont jaloux, oui, mais sinon, non. Non, non, je pense que...
Il y a une très bonne réponse à cette question que m'a apportée Étienne Anaïm il n'y a pas très longtemps, où effectivement, il faisait, un petit peu le point suite à la sortie de l'album Philippe le Bel. Je lui posais la question de savoir comment ça avait été perçu autour de lui, à l'université, ses collègues historiens, etc. Il me disait que la plupart étaient plutôt très intéressés, voire très contents de cette initiative en termes de vulgarisation. Que bien évidemment, il y avait toujours quelques esprits chagrins, comme tu dis, qui se demandent, mais comment la bande dessinée, comment peux-tu intéresser à l'histoire avec la bande dessinée? Et il a eu cette réflexion, c'est de dire, bah oui, mais là, on vient d'en imprimer 19 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'on est capable, par la bande dessinée, par cet aspect de vulgarisation, et avec des historiens universitaires, de toucher sur un sujet qui peut être compliqué, hein, la restauration... La monarchie, selon Philippe le Bel, on est capable d'intéresser un public relativement large. Ce qui, malheureusement, et j'insiste sur le malheureusement, est de plus en plus difficile pour ce qu'on appelle le noir, hein, juste les essais historiques qui sont proposés en termes de recherche universitaire.
Moi, j'en profite juste d'avoir une historienne à la table pour poser cette question. C'est, mine de rien, oui, il y a un problème avec la vulgarisation en France, mais... Il y a un problème au niveau de la qualité. Moi, je ne reproche pas à Laurent Deutsch, d'un point de vue corporatiste, de faire de l'histoire. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il oriente...
Oui, le problème, c'est ce qui véhicule dans l'histoire. C'est ça, exactement.
C'est des erreurs qui sont orientées. Mais du coup, comment expliquer à la fois... Je suis désolé, ce n'est pas très en rapport avec la journée, mais sur la vulgarisation quand même, comment expliquer d'un côté ce succès, soit de BD comme Philippe Lebel, qui sont appuyés universitairement, soit... Et en même temps, les succès comme Laurent Deutsch, qui sont quand même genre... phénoménal par rapport au tirage historique habituel, même de vulgarisation. Par exemple, il y a quand même des tirages de vulgarisation universitaire de bonne tenue, mais qui fonctionnent, qui marchent pas aussi bien éditorialement que...
On est dans une société du spectacle.
Oui, c'est ça.
Et qu'à un moment donné, il faut savoir attirer, vendre, promotionner, et qu'aujourd'hui, je pense que l'universitaire n'a pas cette aura... commercial.
On ne fait pas assez de télé. Il faudrait faire plus de télé, peut-être.
Peut-être que si Nabila faisait un ouvrage universitaire de l'histoire, peut-être que ça...
Finkielkraut, il a été...
C'est un autre sujet.
Alors... C'est lié à ça. Sur les modes de consommation de la BD, est-ce que c'est prévu d'avoir des éditions tablettes, par exemple, de la collection? Parce que j'ai récemment fait pour la première fois la rencontre d'une BD en mode de tablette. Et je trouvais ça, j'étais un peu sceptique parce que j'aime bien la forme libre en tant que telle, mais j'étais assez éblouie quand même sur la possibilité, voilà, de rentrer dans le détail, d'apprécier les couleurs d'une façon très particulière. Et je trouve que c'est un bon mode de consommation complémentaire. Est-ce que c'est prévu?
Alors, aujourd'hui, la plupart des bandes dessinées sont des bandes dessinées existantes sous forme papier sont proposées en format numérique. C'est le cas de cette collection et qui a justement le but, c'est d'être de faire de la vulgarisation, d'être accessible par au plus grand nombre le plus facilement. Donc la version numérique existe bien évidemment.
Avec une valeur ajoutée ou pas?
Non, pas pour le moment. Ça reste un travail particulier de faire la valeur ajoutée. On est en train de préparer un blog mini-site autour de la collection qu'on va essayer d'enrichir progressivement. Et bon, voilà, si on peut proposer un compte-rendu de cette conférence, des interviews, voilà, tout ce qu'on pourra proposer en plus, on pourra le proposer via ce mini-site. Maintenant, faire de la bande dessinée enrichie, c'est encore autre chose. Et on sort du sujet, mais le livre numérique en France n'a pas encore éclos parce qu'il n'y a pas de schéma économique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des velléités, il y a plein d'idées. On reçoit des tas d'auteurs qui viennent avec des idées formidables pour faire de la bande dessinée numérique, sauf qu'à un moment donné, il faut bien le financer. Et il n'y a pas de schéma économique qui permet de financer cette création pour le moment.
On avait fait en novembre une journée d'études sur numérique et bande dessinée, sur cette question, en invitant Chris et Jouvray, Jouvray qui était là ce matin, fondateur de la revue dessinée, revue qui était initialement pensée pour être uniquement numérique, et qui finalement tire à 98% ses revenus de l'édition papier.
99,5%.
Oui. Voilà. Donc c'est bon. Pour en revenir à du Moyen Âge, comment décidez-vous de quoi vous parlez? C'est-à-dire, bon, il est impossible en 46 planches de traiter toute la vie d'un de ces grands hommes. Gabella dit qu'assez rapidement, en discutant, ils ont décidé de parler uniquement des guerres de Flandre et du conflit avec le pape. Le Philippe le Bel couvre chronologiquement toute la vie de Philippe le Bel, mais thématiquement uniquement quelques aspects. À l'inverse, le Charlemagne s'arrête en 800. Pourquoi et comment s'est fait ce choix? Est-ce qu'on vous a dit qu'il faut vous arrêter en 800? Comment ça s'est fait en fait?
Ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est-à-dire on a discuté pour voir quel était l'angle d'attaque qu'on pouvait proposer, à partir de quel fil de narration on pouvait construire le scénario. Il nous semblait, et de toute façon c'est ce qui ressort aussi de n'importe quel ouvrage sur Charlemagne qu'on a entre les mains, les grands moments de l'histoire de Charlemagne, c'est jusqu'au couronnement impérial. Après, il améliore la gestion, etc. Mais bon, il n'y a plus que de la structure. Et ce qu'on raconte, il faut quand même qu'il y ait du factuel, qu'il y ait quelque chose à raconter. Donc, ça ne nous semblait pas aberrant de s'arrêter au couronnement impérial en montrant un petit peu la construction de cette idée impériale.
Il y a de nombreux épisodes de la vie des personnages qui sont supprimés. Bon, ça paraît extrêmement logique. Et d'autres, et je pense que c'est la majorité, sont condensés. C'est-à-dire qu'on mélange en une seule scène, à l'écran, sur la planche, ce qui s'est déroulé en réalité sur 2 jours, 2 mois, 2 ans. Est-ce que c'est un souci d'efficacité narrative, je suppose? Et est-ce que ce format des 46 planches est frustrant pour vous, bon, l'éditeur, je ne sais pas, pour l'historien et le dessinateur?
C'est frustrant parce qu'il faut renoncer à plein de choses, puisque au début, on commence à faire une structure en disant bon, il faudrait parler de ça, de ça. Puis rapidement, on se dit non, là, de toute façon, ça ne va pas être possible, donc il faut enlever. Donc bien sûr, c'est frustrant. Mais si on avait 64 planches, on serait frustré pareil.
Même avec 600.
Hein. Même avec 600, voilà, de toute façon.
La contrainte du format impose un mode de narration. Voilà. Mais je donne 600 planches à un auteur, il va à un moment donné être frustré parce qu'il va lui en manquer pour rentrer dans le détail de telle chose. C'est un choix de départ, faut rentrer dans le moule.
Et du coup, est-ce que le dossier à la fin permet justement de pallier cette frustration de...
C'est un peu l'objectif, c'est d'apporter un plus par rapport à ce qu'il y a dans la bande dessinée. Souvent, quand je présentais le projet, je disais il faut que quand on ait lu la bande dessinée, on ait pris du plaisir tout d'abord à lire une bonne bande dessinée, qu'on ait appris des choses sur le personnage pour qu'on comprenne qui il était. Pas qu'on sache tout de la vie de Charlemagne, de Philippe le Bel ou autre, mais qu'on sache qui il était, qu'on comprenne quel était ce personnage et en quoi, c'est le titre de la collection, en quoi il a fait l'histoire. Le dossier à la fin est là pour compléter, et grosso modo, une fois qu'on a refermé l'album, on peut en parler dans les dîners mondains et avoir l'air intelligent.
La différence entre la compréhension qui serait le fait du dessin et peut-être le savoir plus érudit qui serait le cas du...
De toute façon, oui, puis il y a ce qui est important aussi, c'est la bibliographie qui est proposée à la fin et qui, voilà, vous êtes intéressé par le personnage de Charlemagne, vous ne le connaissiez pas, vous en avez une vision globalement à peu près correcte et honnête historiquement. Vous avez envie d'approfondir, ben voilà, vous partez avec des bases, vous allez voir dans la bibliographie, on va tomber sur le Favier ou d'autres ouvrages.
J'ai une question d'ailleurs sur la bibliographie, comme ça. Est-ce qu'il y a une majorité, j'ai pas, vu que j'ai pas regardé tout et ils sont pas encore sortis, est-ce qu'il y a une majorité d'ouvrages de Fayard ?
Non.
Ah non, non, pas du tout.
C'est purement... Là, ce sont les historiens qui donnent la bibliographie et c'est leur choix.
Que simplifier ? Et comment simplifier ? J'ai juste un exemple. Non, c'est pas là. Juste un exemple ici, avec l'épisode de la donation. Les propos qui sont tenus ici par les différents ecclésiastiques n'auraient, selon toute évidence, jamais été tenus. Enfin, n'ont pas été tenus. Ça paraît logique. La donation de Pépin falsifiée, ils parlent d'un faux eux-mêmes, alors que l'idée même de faux pose problème. On est ici dans une compréhension anachronique du faux, mais une compréhension anachronique assumée. C'est utile, je suppose, pour rendre compréhensible le propos par tout lecteur. Donc là, pour le coup, on a une approximation, mais jusqu'où simplifier ? Jusqu'où est-ce qu'on peut simplifier ? Parce que c'est une simplification, ça, finalement.
C'est pas une simplification, c'est une explicitation. C'est une explicitation de quelque chose qui est implicite. C'est-à-dire que c'est du non-dit. Donc, en clair, la chancellerie pontificale a fabriqué de toutes pièces, sans aucun doute, une donation, une prétendue donation faite par Pépin le Bref au pape, et l'ont fait avaliser par son fils, Charles. Il est certain que les membres de la chancellerie eux-mêmes savaient que ce parchemin était un faux qu'ils auraient certainement considéré comme un faux sincère. C'est-à-dire que c'est un faux, mais c'est un faux qui représente une idée qui, elle, est juste. Et donc, bon, si on n'a pas le document qui la justifie, on va le fabriquer, c'est pas grave, puisque l'idée elle-même est juste. C'est ça, la difficulté du faux. Et ça, on ne peut pas... On est obligé de l'expliciter par des mots parce qu'on ne peut le rendre par rien d'autre. Donc à ce moment-là, il faut mettre en place un dialogue explicite pour manifester quelque chose qui devrait rester de l'ordre du non-dit. Mais alors là, le non-dit dans la bande dessinée, c'est très difficile.
Là, l'idée, c'était vraiment de résumer une notion un peu complexe en trois dialogues.
Vous êtes dans un phénomène de mode. C'est dans la bande dessinée historique une mode depuis 10 ans d'avoir un dossier historique à la fin. Ça permet, c'était pas le cas jusqu'à il y a 10 ans, et c'est aujourd'hui ça devient vraiment une généralité. Et c'est une bonne chose, je pense. Que ça permet de mettre à la fin de l'album toutes les cartes, tous les chiffres, toutes les dates. Et ce qu'on avait par exemple dans l'histoire de France Larousse, des cartes, des chiffres, des chronologies. Maintenant, on l'a à la fin. Ça permet tout ce qu'on veut faire passer, qu'on doit, les chiffres, les dates, les choses vraiment matérielles, ça permet de les évacuer et du coup de se concentrer sur les épisodes plus vivants dans la bande dessinée en évacuant l'aspect vraiment didactique. Est-ce que c'était conçu comme ça ? Est-ce que c'était conçu vraiment comme quelque chose qui permet d'évacuer le trop-plein didactique dans le corps de la bande dessinée ou pas ?
De toute façon, l'idée de départ, c'est de faire une bande dessinée qui soit agréable autant qu'instructive. Si tu prends la bande dessinée de Larousse, à l'époque c'était très bien, aujourd'hui c'est super chiant à lire. On n'a pas du tout cette appréhension, cette culture de la lecture de bande dessinée avec un truc un peu rébarbatif, ultra pédagogo. Donc non, ce n'est pas la bande dessinée d'aujourd'hui. Donc l'idée était vraiment d'avoir un album de bande dessinée le plus agréable à lire possible, autant qu'instructif, et effectivement remettre toutes ces informations plus factuelles dans un dossier complémentaire qui permet justement d'être vraiment complémentaire de la bande dessinée et pas tout mélanger.
Ça permet aussi de remettre en perspective hein, les épisodes en question, d'expliquer le choix, d'expliquer justement le projet, c'est-à-dire d'expliquer au lecteur qu'on ne lui a pas tout dit. Mais voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à en dire, mais ce qu'on en a dit, on l'a dit dans telle et telle intention. Ça, je trouve que c'est très intéressant.
La naissance des dossiers historiques dans la bande dessinée historique depuis 15 ans a permis la suppression des notes de bas de page. Dans la BD historique, alors, de manière, on a des contre-exemples, hein, mais dans la BD historique, jusqu'à il y a 15 ans, on avait à chaque page une note ou deux de bas de page en disant tel terme, ça veut dire ça, tel chiffre, ça veut dire ça, etc. Dans le Philippe le Bel, on n'a aucune note de bas de page. Dans le Charlemagne, il y en a une, mais où est-ce que je l'ai mise ?
Elle était là.
Non, ça c'est Vercingétorix. Voilà. On en a une dans le Charlemagne, une seule.
Oui.
Pour expliquer ce que c'est qu'un capitulaire. Dans le Vercingétorix, hier soir j'étais fatigué, j'ai fait que les 30 premières pages, mais j'en ai déjà trouvé 3 ou 4. Voilà. Est-ce que c'est une consigne de l'éditeur d'éviter ça ? Est-ce qu'il n'y a aucune consigne ? Parce que là, pour le coup, c'est un choix éditorial.
C'est un choix éditorial de... En fait, ça dépend des... Sur le Vercingétorix, il y a un certain nombre de noms latins qui ne sont pas du tout usités. Et qui n'avait pas vocation à être explicité dans le dossier final. Voilà, c'était le lieu pour les mettre, pour éviter toute ambiguïté, et puis d'aller chercher dans le dossier final que veut dire un pallium, ce genre de choses.
Il y en avait un petit peu plus dans Charlemagne, et j'ai essayé de supprimer tout ce que je pouvais. Parce que je trouve que c'est pas...
Ça coupe la lecture.
Oui, c'est pas... Enfin, l'idéal, ça serait qu'il n'y en ait pas du tout, évidemment.
Il n'y en a qu'une. L'idéal, ça serait que le lecteur soit intelligent et connaisse tout d'avance.
On est là pour rendre le lecteur intelligent.
Du coup, je vais me faire l'avocat du diable, mais dans le Philippe le Bel, effectivement, il n'y a pas de note de bas de page, mais à une ou deux reprises, donc je suis médiéviste, je comprends, mais à une ou deux reprises, je pense que certains non-médiévistes ne comprennent pas. Et je vais donner un exemple, c'est celui-ci, le pape parle d'une fête, etc., et puis il parle du mot jubilé. Le mot jubilé, le jubilé du club de foot à la limite, bon, passe encore, mais le jubilé du pape, ça, voilà une notion qui n'est pas transparente. Et alors certains, soit à mon avis, le comprennent mal, et d'autres, à mon avis, ne le comprennent pas. Est-ce que ce n'est pas les limites de l'absence de note de bas de page ?
Si, mais le problème, c'est qu'il y a, quand il s'agit de juste... comme c'est le cas pour le Vercingétorix, de donner une traduction, ça va relativement, c'est assez simple. Va-t-on expliquer le jubilé du pape en deux mots, en note de bas de page ? C'est compliqué. Donc là, on fait le choix de faire l'impasse. Le lecteur qui va se poser la question peut aller chercher un peu plus loin.
En plus, si je peux me permettre, juste les trois mots d'avant, le triomphe de l'Église, un jubilé, on voit là une bonne idée, on fait le parallèle, on se dit que c'est quelque chose de positif, une sorte de fête ou un truc comme ça, on n'a pas besoin de...
Voilà, il y a l'essentiel de l'idée, mais la définition même de ce que c'est qu'un jubilé, c'est compliqué.
Dans le même état d'esprit, la question de l'allusion. Là, par exemple, il y a une allusion au pape Célestin. Alors, Célestin V, en l'occurrence, mais ce n'est pas marqué. C'est pas du tout explicite. Est-ce que vous n'avez pas peur avec des... Alors, là encore, on peut prendre un dictionnaire, on peut aller sur Wikipédia. Est-ce que vous n'avez pas peur de perdre le lecteur avec une absence parfois d'explicitation ?
Ben, le lecteur, il les mettra à bord. Hein. Il lit sa BD, puis s'il ne veut plus la lire, il la lit plus.
Effectivement, c'est tout l'équilibre à trouver entre les informations que tu donnes et qui sont dans l'album et puis ce que tu vas lui donner en plus au lecteur. Là, effectivement, le personnage de Célestin n'est pas explicité, on n'en parle pas plus, mais ça avait sa place dans le dialogue ici. C'est important dans le dialogue ici, mais d'expliquer qui est Célestin et de montrer tout le rapport, c'était pas le sujet de l'album. À un moment donné, voilà, tu peux pas expurger de l'album toutes les informations qui ne sont pas explicitées. Sinon, tu passes à côté de trop de choses.
Oui.
L'enseignement justement qu'on donne des textes aux élèves, on essaie de mesurer la compréhension des textes,
effectivement, il y a le réflexe scolaire de dire à chaque fois que tu ne connais pas un mot, cherche-le dans le dictionnaire. Mais en fait, on renonce à cette pratique-là parce qu'on sait bien qu'on n'a pas besoin de connaître tous les mots d'un texte pour les comprendre. Nous-mêmes, adultes, on lit des textes et on ne va pas chercher dans le dictionnaire à chaque fois. Mais en fait, les élèves ne peuvent pas comprendre un texte parce qu'il y a un certain nombre de mots qui font obstacle. Mais ils n'ont pas besoin de comprendre tous les mots. Donc, je pense que ce n'est pas du tout un obstacle de ne pas comprendre le mot jubilé, etc. Parce qu'en fait, s'ils en ont besoin, éventuellement, ils cherchent. Éventuellement, ils ne cherchent pas. Quand on raconte des histoires aux enfants de maternelle, tire la chevillette, la bobinette, cher rat, aucun enfant ne demande, mais on ne va pas lui expliquer que cher rat, c'est le futur verbe choix.
C'est une formule magique.
Du mot, ils entendent et ils apprennent cette formule, même s'ils ne comprennent rien. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer tous les mots des textes.
Puis c'est aussi le caractère pédagogique de la BD, c'est que s'il y a un mot qu'on ne comprend pas, moi, quand il y a un texte que je ne comprends pas, si j'ai la volonté d'aller plus loin, je vais le faire, je vais regarder quelque chose. Après, on n'est pas là pour dire aux gens comment lire une BD, c'est juste. C'est le caractère pédagogique du truc, quoi, je pense.
Il y a aussi le dessin, parce que quand on voyait sur les images précédentes, les fantassins romains s'écriant poro, comme ça, avec traduit à l'assaut, on n'a même pas besoin de se reporter pour voir, il sort d'une tour avec une épée à la main pour foncer vers des murailles. On se doute qu'ils disent pas j'ai un point de croix à faire. Quoi.
une question qui se pose aussi, c'est celle de la voix off. Alors, je ne sais pas si on parle de voix off dans une bande dessinée, mais les cartons dans l'histoire de France en bande dessinée, dans l'histoire de France Larousse, sont omniprésents. Alors là, on a une malheureuse bulle, mais qui est complètement factice. Ce matin, Jean Bichot parlait de négation de la bande dessinée avec l'histoire de France. On est vraiment dans la négation de la bande dessinée. D'ailleurs, dans la revue dessinée, ça pose problème. Ce rapport texte-image pose problème. En fait, dès qu'on est, c'est un autre débat. Mais on est ici dans une image qui illustre vaguement un texte. Et on a vraiment... Bon, on a une bulle à gauche, mais on est vraiment dans du carton, dans des cartons sans aucun dialogue. Dans les deux albums Charlemagne et le Philippe le Bel, on voit bien qu'il y a une volonté de limiter ceci au maximum. Néanmoins, on a cette planche, par exemple, celle-là également, où on n'a absolument aucun dialogue. Alors et dans le Charlemagne, c'est amusant parce qu'ils ont trouvé une manière de rendre ça vivant en mettant les cartons à la première personne. Voilà, en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela, au lieu de dire il a fait ceci, il a fait cela. Bon, c'est assez rhétorique, mais ça marche. Est-ce que c'était vraiment une volonté d'éviter ces cartons à tout prix et d'être dans le dialogue pour rendre ça plus vivant? Ou qu'est-ce qui a conçu ça? C'était plutôt l'éditeur, le scénariste? Comment ça s'est fait?
Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais sur les cartouches qui sont la négation même de la bande dessinée. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi.
Je citais Georges Bichot.
C'est une façon de faire de la bande dessinée qui est plus ancienne. Ça correspond à la bande dessinée des années du début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on a tendance à ne faire que de la bande dessinée dialoguée. Parce qu'on trouve que c'est plus vivant, que c'est plus dynamique, parce qu'on arrive aujourd'hui à faire passer l'essentiel de l'information par le biais de dialogue, parce qu'on raconte les choses différemment, c'est-à-dire qu'on étale le récit sur beaucoup plus de pages, de cases qu'on ne le faisait à cette époque-là. Quand le personnage de Philippe le Bel dans l'histoire de France, de chez Larousse, c'est résumé en 15 pages. Nous on en a 46 et comme on le disait tout à l'heure, on aurait pu en avoir 600. À un moment donné, c'est un mode de narration. Le cartouche permet d'accoler le dessin et le texte en faisant passer un maximum d'informations. Dans les deux cas que tu citais, pour Charlemagne ou sur le Philippe le Bel, à la limite peu importe que ça soit la première ou la deuxième personne ou la troisième personne, l'idée est de condenser sur ces pages-là un maximum d'informations pour pouvoir passer d'une séquence à une autre. Dans le Philippe le Bel, il y a une volonté d'expliquer le règne de Philippe le Bel d'une certaine manière. Il faut bien faire passer les informations de base. Ces informations de base, soit tu as la place, tu as une quinzaine de pages pour faire du dialogue et faire comprendre au lecteur ces informations-là, soit tu choisis de les résumer et tu passes par l'utilisation des cartouches. Dans le cas du Charlemagne, c'est exactement le même principe. Comment tu vas résumer sa campagne en Espagne ? Alors, soit tu vas prendre 10 pages pour raconter son passage en Espagne et ce qui s'est passé, soit tu utilises cet artifice, qui est vraiment un artifice de narration, pour faire passer par le texte uniquement du cartouche énormément d'informations.
Je recherchais là la planche qui n'est pas celle que vous avez montrée, mais la suivante, oui, c'est ça. Mmh. Vous dites c'est un, vous l'avez mis à la première personne et c'est un artifice. Non, l'artifice consiste à dire que Charlemagne écrit à sa sœur. Oui. En réalité, c'est le texte d'une lettre. Donc, on lit dans ces bulles parcheminées quelque chose qui commence par « Chère sœur, tu sais à quel point je hais l'inaction, etc. » Donc, l'idée, c'est qu'il est dans le siège de Saragosse, il ne sait pas comment s'en sortir, il écrit à sa sœur, et c'était aussi une manière de parler de la sœur de Charlemagne, qui est un personnage extrêmement important, qu'on voit hein, sur une autre planche. Hein. Voilà, donc, il ne s'agit pas simplement de mettre la chose à la première personne, mais de l'insérer, là aussi, dans une relation entre des personnages.
Une dernière question pour conclure, c'est celle du public visé. Est-ce que les CDI, est-ce que les bibliothèques municipales, universitaires, sont bibliothèques d'enseignement sont un objectif pour vous? Et surtout, quel est ça fait pas longtemps, mais quels sont les premiers retours, alors pas forcément en chiffre de vente, en termes de vente, mais en termes de retours critiques ou des lecteurs, quels sont les premiers retours sur ces deux albums publiés?
Les retours lecteurs, on va laisser parler le dessinateur. Moi, en première ligne pour les dédicaces.
En dédicace, j'ai des lecteurs qui... Alors, c'est bizarre parce que forcément, les premières semaines que je dédicace, les lecteurs, ils n'ont pas encore eu la BD, je l'achète et puis ils la font dédicacer et ils se retournent chez eux pour la lire. Certains, quand même, l'ont déjà lu. Et en règle générale, ils viennent aussi la dédicacer parce qu'ils l'ont apprécié, sinon ils ne viendraient pas. Mais j'ai des très bonnes critiques, en tout cas pour ce qui est du côté historique et du côté, côté mise à jour un petit peu par rapport à la collection
de chez Larousse.
Ils ont fait l'histoire. Et ça, pour le coup, les lecteurs de BD en sont plutôt satisfaits. Donc. Et après, pour le dessin, ils en sont aussi satisfaits, ils me le disent, donc je suis content. Et pour la trame scénaristique et le fait qu'on oublie de parler, ou en tout cas qu'on en parle très très peu des Templiers, la majorité nous disent que c'est bien. Parce que du coup, on parle de Philippe le Bel, on ne parle pas des Templiers. On parle enfin d'autre chose, et il y en a eu un ou deux, deux lecteurs qui étaient accros aux Templiers, donc du coup qui étaient déçus de ne pas avoir eu les Templiers. Et en même temps, je lui dis, on ne l'a pas fait pour vous, on l'a fait pour les gens qui veulent lire Philippe Bel. C'est surtout ça. Et il n'y a pas de problème avec ça, au final, c'est normal. Je pense que pour Charlemagne, il y aura peut-être aussi ce genre de soucis pour d'autres trucs, ou pour Jaurès, etc.
La barbe, etc. La barbe, elle est
c'est marrant parce que
légendaire.
Les gens s'accrochent beaucoup plus à ce qu'ils ont de dire, à ce qu'ils savent, enfin ce qu'ils pensent savoir.
Et, ils veulent retrouver ce qu'ils connaissent.
C'est toujours frustrant de savoir qu'on ne connaît rien. Oui. Et c'est là tout le problème de se rendre compte qu'on ne connaît rien. Sauf que quand on achète une BD historique, a priori, on sait qu'on va apprendre des choses, ou en tout cas, on espère. Et si on n'apprend rien, oui, dans ce cas-là, on peut s'en plaindre. Mais bon, je sais pas, je pense que ça serait un petit peu bizarre d'acheter une BD sans vraiment avoir envie d'en apprendre quelque chose. Quoi.
Alors oui, les CDI, bibliothèques, tous les lecteurs sont invités à se ruer en librairie pour acheter cette collection. Il n'y a aucun problème. Tout le monde. C'est pas spécifiquement pour les CDI et centres de documents, enfin les bibliothèques, mais je pense qu'ils y ont évidemment leur place pour pouvoir justement rentrer en contact avec peut-être je parle des CDI, avec les collégiens, les lycéens qui pourraient avoir une vision de l'histoire un peu abstraite aujourd'hui.
J'ai beaucoup de profs d'histoire dans mes dédicaces. J'en ai beaucoup, beaucoup, et la plupart sont très contents parce que du coup, Ils sont là avec leurs enfants, des fois ils achètent un livre qu'ils vont donner à leurs étudiants, et donc du coup c'est plutôt positif, mais en même temps c'est comme tout le principe de bande dessinée historique. Donc,
quelle est la durée moyenne de la réalisation d'un album?
La moyenne,
en moyenne, on va dire un an, ouais.
Un album, c'est grosso modo entre 9 mois et 1 an sur cette collection là qui nécessite pas mal de travail en amont. On est plutôt sur 18 mois.
Est-ce que vous avez prévu des pré-publications dans les magazines?
Si les pré-publications existaient encore, on en serait très content.
C'est le problème.
Mais il n'y a plus de magazines, surtout.
Il n'y a plus de magazines qui font ça.
Il n'y a plus de magazines. Ouais,
même dans la presse quotidienne, pendant les vacances.
Le Monde, ça serait
fou. On aimerait tous, hein, sauf que le problème, c'est que les gens qui écrivent, qui font Le Monde, ne vont pas forcément avoir envie de mettre une BD en plein milieu de leur...
Ils font l'été, il y a effectivement ce genre de démarche. Mais pour l'instant, effectivement, ça se concentre sur du Blake et Mortimer, du 13... Ce genre de bande dessinée.
Télégramme de Brest, l'Épervier, c'est dans le Télégramme de Brest, c'est prépublié. Bon, c'est du local, mais.
Alors, c'est du local et on est sur un album qui vend à plus de 100 000 exemplaires.
Oui, et qui historiquement est aussi impeccable.
Parce que là, il y a IRS19 dans Les Échos, mais bon, c'est aussi une presse spécialisée sur la bourse, donc voilà, sur l'économie.
Clément ?
Est-ce que dans le catalogue qui est prévu, il y a certaines figures historiques controversées qui sont au programme? Je pense à, Pétain, Hitler, Staline.
Alors, on en parlait tout à l'heure. Alors, il y a deux choses. Il y a Faire les méchants, c'est un plaisir pour des auteurs de bande dessinée de s'attaquer à des récits de méchants. Donc, il y en a un qui est prévu, c'est Mao, qui sera, je pense, qui est prévu pour 2017. Ensuite, ça sera avec Jean-Luc Domenac comme historien. Après, la problématique, c'est de trouver les personnes qui vont oser, entre guillemets, s'attaquer à Hitler ou Pétain. Je parle aussi bien en termes de scénariste, parce que il faut savoir comment intellectualiser ce genre de personnage et quel message on va faire passer, comment on va rendre la dramaturgie sur ce genre de personnage. Puis après, il y a les historiens. Il faut qu'il y ait des historiens prêts à s'impliquer et à mettre leur nom sur pour dire voilà, Hitler, c'est comme ça que je le vois. Pour le moment, nous n'avons pas rencontré d'auteurs qui seraient prêts à, enfin, qui nous ont proposé ces personnages en disant voilà, c'est la manière dont on le voit et ça va être bien. Mais on n'est pas fermé.
Logiquement, ce serait quand même très intéressant de proposer. Parce qu'en plus, quand on prend des figures comme Hitler, par exemple, dans la bande dessinée, il y a même des uchronies qui sont très à la mode en ce moment, où justement, et si Hitler n'était pas mort en 1945, s'il amène avec la Seconde Guerre mondiale, ça permettrait peut-être aux lecteurs adolescents de lire autre chose qu'une uchronie sur la Seconde Guerre mondiale.
Je suis bien d'accord avec toi. La difficulté, elle est de rencontrer, d'avoir cette rencontre entre un historien et un scénariste sur lequel on va avoir cette accroche. Pour l'instant, je ne l'ai pas eu.
C'est un travail de dépollution.
Oui, mais on peut parler de dépollution. Je pense que c'est un sujet qui est à la fois compliqué.
Surtout en
46 pages, je pense que très clairement ça sera un personnage qui bénéficierait de plusieurs volumes, mais c'est au-delà de la difficulté de se dire allez, on va publier un album sur Hitler. La difficulté, c'est d'abord trouver des gens qui vont être capables d'en parler correctement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Et bien, en quel cas, on remercie nos trois invités d'être venus jusqu'à nous. Et on va clôturer par une petite séance de dédicace.
Ouais,
le Charlemagne ne peut pas être dédicacé puisqu'il n'est pas encore paru.
Non.
Mais le Philippe Lebel et son auteur vous attendent. Merci.
Je vais faire ça là. Je vais pas.
Oh. mais ça, Tristan, c'est un vrai chef dans l'âme. C'est là, il va, il est très loin.